Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, Eva Rock pour son zapping du lendemain empli de liberté et Bertrand Chameroy pour son écran de veille empli de freedom d'anglais. Notre invitée, c'est la chanteuse Barbara Pravi. Elle va représenter la France à l'Eurovision avec son titre Voilà que vous allez entendre. Et vous allez aussi découvrir un personnage vraiment. Hélène Manarino en prime va nous dresser son portrait inattendu. Dans les indispensables, les sorcières à l'honneur. Non, c'est pas Eva Rock, mais elle vous en dira plus. Et puis une œuvre de Mozart qui pose question. C'est pas l'heure d'Autriche, la sorcière. Elle va tout vous dire sur Mozart. À tout de suite. Bonjour Eva.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bonjour Bertrand Chameroy.
Bonjour Philippe Vandel.
Bertrand, c'est l'heure de votre écran de veille et vendredi, vous avez regardé Koh-Lanta.
Évidemment, Koh-Lanta, l'émission dans laquelle les candidats se comportent comme nous à la réouverture des terrasses.
Bouteille ! Bouteille !
Ouais, on dirait Eva le 19 mai.
C'est vrai.
Koh-Lanta, donc, animé par Denis Brognard, le taulier du jeu d'aventure. Et du sadisme également. Vendredi, les candidats devaient faire tenir des morceaux de bois en équilibre sur une planche elle-même tenue par une cordelette. Une épreuve qui demande d'allier concentration, précision et sang-froid, le tout sous une chaleur de bête en crevant la dalle. Résultat, les candidats peinent à réaliser l'épreuve, mais ils peuvent compter sur le soutien de Denis, qui est toujours de bons conseils.
Oh !
La gestion de la frustration, c'est la base aussi. Hein.
Ah.
Merci Denis, on n'y avait pas pensé. L'autre, il est peinard en chemise. Ah, il adore remuer le couteau dans la plaie. La récompense pour les vainqueurs de l'épreuve était une nuit dans une luxueuse villa avec douche, lit douillet et buffet à volonté, le rêve. Et voici la question que Denis a posée à l'une des perdantes.
Magali, c'est frustrant cette défaite.
Ah bah non. Après 21 jours à trimer, je le prends hyper bien, Denis. Quel vicieux. Pour les gagnants, c'était donc nuit all inclusive dans une villa avec piscine. Piscine dans laquelle les candidats se sont jetés tout habillés avant même de prendre la douche. Conséquence, l'eau est devenue grise, marron, noire en 2 secondes. Et voici la réaction de Vincent.
Ah, c'est vert, c'est dégueulasse.
On l'a pas respecté la piscine, la
pauvre. On l'a pas respecté la piscine, non. Vincent, le roi de la punchline, de préférence en anglais. La semaine dernière, souvenez-vous, il avait ouvert les hostilités avec son désormais culte.
Après, si c'est pour éliminer le 6e ou 7e, I don't want this.
Vendredi, il a remis ça, car c'est le Nelson Montfort de Lille. He's Nelson My Strong of the Island.
Et on verra bien au prochain conseil qui part. J'attends mon tour. I'm here, girl.
It's time to change.
Et il parle plus et mieux anglais que Myriam, dont c'est pourtant le métier.
Je suis même pas le seul à avoir remarqué ça. C'est tous les ex-rouges qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Non mais Myriam, changement de personnalité. What's happening right now, bitch ?»
Ah, je l'adore, Vincent. Il est très très drôle. Mais Vincent n'a pas le monopole des punchlines. Lors du conseil, Thomas nous a offert le lapsus de la semaine et visiblement, il adore son équipe.
Je trouve qu'ici, c'est une bonne bande d'hypocrites.
Oh, mais non,
oui, non. Et la palme de la réplique est attribuée à Jonathan au moment de justifier son vote contre Myriam.
Je te trouve très irrespectueuse. Ciao, bon week-end.
Et surtout, prends bien soin de toi.
Et pourquoi bon week-end, on ne sait pas.
On ne sait pas.
Comme ça.
Thank you, bitch. Eva, à quoi ressemblent les programmes en début de semaine? Quel est le thème de votre zapping du lendemain? Vous avez choisi quoi, Eva?
La liberté de penser, thème toujours d'actualité, et qu'il était déjà au XVIIIe siècle, ne manquez pas le numéro de Secrets d'Histoire sur France 3, consacré à Voltaire. Alors, sa vie, son œuvre, évidemment, mais surtout son combat contre l'intolérance, l'injustice et le fanatisme religieux, à une époque où les protestants étaient encore la cible des catholiques, une situation qui le rendait malade, mais littéralement, comme le raconte Elisabeth Badinter et l'historien Pierre-Yves Beaurepaire.
Il ne peut pas admettre qu'au nom de la religion, au nom d'un Dieu qui est supposé bon, les hommes aient des pratiques aussi atroces. Toujours au nom de Dieu.
On a, mais ça fait partie de sa légende aussi, l'idée qu'à chaque Saint-Barthélemy, il est pris de spasmes, il se sent malade, il se sent faible et il s'alite. C'est révélateur en tout cas, légende ou pas, du fait que pour lui, le fanatisme religieux associé à l'abus de pouvoir est toujours présent et toujours une menace.
C'est un numéro très réussi de Secret d'Histoire qui parvient à naviguer entre l'analyse de l'œuvre de Voltaire, son parcours personnel et quelques histoires croustillantes évidemment. Et surtout, c'est l'émission idéale pour les lycéens en pleine révision du bac de français. Alors eux aussi ont fait de la liberté de pensée et d'expression un principe fondamental. Eux, ce sont les humoristes, comme Mathieu Madénian, chroniqueur à Charlie Hebdo, et qui sait à quel point cette liberté est une question de vie et de mort. En 2018, il parcourait la France avec son spectacle intitulé « En état d'urgence » qui est diffusé ce soir sur Comédie Plus. Alors parmi les sujets, sa visite médicale pour obtenir un prêt bancaire. Vous savez, c'est souvent obligatoire, enfin c'est même toujours obligatoire. Et alors il fait un petit malaise après une prise de sang, réaction du médecin.
Il me dit « Vous inquiétez pas », il me dit « Je vais vous donner quelque chose ». Je dis « Tiens, il va me donner un médicament ». Non, il m'a donné un croissant. C'est ça la médecine. Quand tu te vides de ton sang, c'est une viennoiserie qu'il faut prendre. Hein. Non mais, sachez-le, si un jour vous allez à la guerre et que ton meilleur ami meurt dans tes bras, tu lui dis « John, ne t'inquiète pas, putain, on va trouver une boulangerie. Amenez-moi des chouquettes, on le perd là !» Et un Paris-Brest, c'est pour moi, j'ai un petit creux.
Spectacle ultra rythmé, comme s'il y avait une sorte d'urgence à faire rire les gens, une urgence aussi à se moquer du monde. Et de la moquerie, de l'humour et cette liberté d'expression constituent le leitmotiv de la nouvelle chaîne de Canal+, qui s'appelle Canal+ Story. Alors elle regroupe tous les programmes courts à succès, Les Nuls, Omar et Fred, Coluche, KDO. Et au milieu de tous ces programmes, je vous recommande un petit montage de 30 minutes qui revient sur toutes les fausses pubs qui sont réalisées par ces comédiens et ces comédiennes dans ces programmes court. Extrait savoureux avec Virginie Efira. Elle est en train de se disputer avec son mari. Leur fils est là. Alors à défaut de prononcer des insultes pour essayer de protéger ses petites oreilles, ils épellent les insultes en question.
Tu commences à me casser les COUI2LES. Hein. Je t'ai dit que c'était ma secrétaire.
Ta secrétaire ? Vas-y, prends-moi pour une CONNE.
Attention, ne me pousse pas à bout. Hein. Déjà qu'on COUCHE plus ensemble, c'est plutôt à moi de te demander avec qui tu PAISES.
Oui, vas-y, traite-moi de SALOPPE.
Maman, y'a qu'un P, salope.
Pour préserver vos enfants, arrêtez d'épeler les mots vulgaires. Ils ont le dictionnaire.
J'adore ce passage. Alors Virginie Efira garde un très mauvais souvenir de cette émission, Canal Presque, ça s'appelait. Il reste cependant quelques pépites comme ce moment. Alors même si pour moi, les fausses pubs des nuls restent incontournables et incomparables. Donc de la liberté ce soir avec Voltaire sur France 3 à 21h05, avec Mathieu Madénian sur Comédie Plus à 21h, et sur Canal Plus Story, c'est quand vous voulez.
Merci beaucoup Everock, on vous retrouve tout à l'heure pour votre indispensable. Oui. Il sera question de sorcières. Merci Bertrand Chamerois. On vous retrouve demain à 7h40 pour la chronique La Touche Âme dans la matinale du sorcier Mathieu Béliard. Et sinon, demain dans l'émission. Dans un instant, notre invitée Barbara Pravi, chanteuse, autrice, compositrice. En attendant, voici le titre qu'elle va défendre à l'Eurovision. Ça s'appelle Voilà sur Europe 1.
Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si, mise à nu, j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mise à nu c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Voilà, 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 voilà juste ici. Moi, mon rêve, mon envie. Comme j'en crève, comme j'en ris. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Ne partez pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas. Faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime parce que moi je sais pas bien aimer mes contours.
Voilà, c'était Barbara Pravi. C'est Barbara Pravi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chanteuse, autrice, compositrice, 27 ans seulement, déjà une vie bien remplie, même parfois toute cabossée, c'est vous qui le racontez. C'est vous qui allez représenter la France à l'Eurovision, ce sera le 22 mai à Rotterdam. Une fois n'est pas coutume, mais peut-être pour la première fois depuis Marie-Myriam, les bookmakers donnent la France gagnante ou alors dans le trio de tête. On vient d'entendre, voilà, cette chanson. Avant de parler de votre actu, il y a un album qui sort, il y a un mot de l'Eurovision. Dans le classement des bookmakers, j'ai dit, vous êtes à la deuxième place sur 39, en général, le vainqueur toujours été donné parmi les trois premières places. Vous y croyez ? Ou alors, ça ne vous intéresse absolument pas la compétition, et ce qui vous intéresse, c'est de vous faire connaître devant l'Europe entière ?
En tout cas, la compétition dans ce cas-là, pour moi, la compétition, il y a un endroit où du coup, il faut avoir la niaque comme ça, et se serrer les dents et un petit peu aller écraser les autres, parce que pour être premier, il faut nécessairement que les autres soient second ou 39e. Ouais. Ça ne m'intéresse pas, non. En tout cas, je ne suis jamais dans ce mood-là. Maintenant, évidemment que j'ai envie de gagner, je serais très fière. En fait, je serais très très fière que cette chanson soit la chanson gagnante pour toute l'histoire qu'elle porte, pour toute cette... Moi, j'aime tellement les mots, la langue française, ce serait une vraie grâce. Maintenant, ce sont des choses qui ne m'appartiennent pas, quoi. Moi, je vais faire ce que je peux, et puis ce sera pas mal.
Et l'histoire qu'elle porte, évidemment, c'est la vôtre. Pour info, il y aura 3500 personnes dans les gradins à Rotterdam. Combien devant la télé ?
Plus de 200 millions.
Qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Il y aura un avant, un après ?
Ah bah oui, mais il y a déjà un avant, un après, je veux dire, un avant...
Le simple fait d'avoir été choisi,
oui,
déjà.
Oui, bien sûr, évidemment. Donc j'imagine que ce sera un nouvel après. Mais bon, c'est des choses qui sont tellement imprévisibles. C'est-à-dire, moi, si on m'avait raconté là... Enfin, si on m'avait dit, mais tu sais, si tu gagnes l'Eurovision en France, il va se passer ça. Franchement, je pense que je me serais marrée très fort. Et c'est inimaginable, en fait, quand on ne le vit pas.
Vous savez déjà quelle sera la scénographie à Rotterdam ?
Oui.
Vous pouvez le dire ou pas ?
Pas vraiment. Mais si, ce que je peux dire, c'est que bon, de toute façon, cette chanson est très très simple, hein, mm-hmm. Je veux dire très très pure. Je serai seule sur scène, comme précédemment fait, quoi. Et c'est très important pour moi que les mots et ma gestuelle et mon interprétation soient mises en valeur. Donc ce sera toujours dans cette espèce de souci de pureté, quoi.
Je souris, vous n'allez pas arriver en voiturette de golf comme Sébastien Tellier.
Non, puis je me suis dit pourquoi pas des petites baguettes et des petits bérets un peu partout sur plein de danseurs, mais je n'ai pas trouvé leur place. Donc...
Vous avez une autre actualité, il y a un nouvel album, un EP, ça s'appelle, de City, qui s'appelle Prière. C'est quoi l'idée de ce mini-album ? Est-ce qu'il préfigure un album plus imposant ou c'est encore un... Il a sa vie propre, il est autonome ?
Alors c'est un album autonome, ça c'est sûr. Alors c'est un petit disque que j'ai commencé à faire. À la base, j'ai commencé à faire des chansons un peu toute seule sur mon ordinateur. Moi, je travaille tout le temps avec des compositeurs,
ouais.
Parce qu'en fait, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui joue de la musique pour, comme moi, je compose à la voix pour permettre à ma voix de se balader en fait. Et là, pendant le premier confinement, j'étais donc seule et je me suis dit mais en fait, j'ai pas envie d'arrêter de faire de la musique. Comment je vais faire pour être productive? Et sachant que je suis toute seule et qu'on est tous tout seuls et que j'ai pas envie d'arrêter, quoi. Il faut que je trouve une nouvelle façon de m'inventer dans la musique. Et donc j'ai fait ces petites prières qui sont des trucs que j'ai du coup composés, écrits toute seule.
Alors vous dites, ça fait 20 minutes que vous avez dit ça, c'était en janvier, vous dites que ce sont des chansons que je fais toute seule chez moi sur GarageBand, qui est le logiciel le plus pourri du monde.
Mais oui.
Et ben la preuve que non. Ou alors, voici ce que peut en faire Barbara Pravi de ce logiciel. C'est un extrait de la chanson Les prières aux rêves.
Donne-moi encore un peu de tes mots, de ton cul, de tes bras. Encore un peu de toi, va pas, t'en va pas. J'aimerais que durent les heures, que les aiguilles retiennent le son de nos voix. Donne-moi, donne-moi encore un peu de tes mots, de ton cul, de tes bras. Encore un peu de toi, va pas, t'en va pas. J'aimerais que durent les heures, que les aiguilles retiennent le son de nos voix. Jusqu'au jour que s'éternise le rêve, ta présence, ton absence, tout se mélange, tout s'en mêle, au moins.
Bon, déjà, vous pouvez pas tout à fait dire que c'est un son pourri. Deuxièmement, vous avez mis cet album en ligne le 8 mars, oui. Journée du droit des femmes. Ça va bien avec Donne-moi un peu de ton cul, blague à part. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Pourquoi ces deux choses concomitantes ? Pourquoi tout ça ensemble ?
Alors, je les ai sortis le 8 mars parce qu'en fait, ça fait plusieurs années que je sors des projets pour la Journée internationale du droit des femmes.
Ouais.
C'était la quatrième année. Et chaque année, je me rends compte que ça me donne un peu une idée de où est-ce que j'en suis dans ma réflexion en tant que femme, en tant que musicienne, en tant que plein de choses, en tant qu'humaine, quoi. Et cette année, voyant le 8 mars arriver, je me suis dit, où est-ce que j'en suis ? Et je me suis rendu compte que là où j'en étais, c'était dans une espèce de nouvelle forme d'indépendance via justement ces prières que j'ai faites sur GarageBand vraiment seule, et que ma façon de continuer de grandir et de m'expandre à l'intérieur de moi et pour moi, en fait, ça a été cette nouvelle création solitaire des prières. Et je me suis dit, mais en fait, ce serait trop joli de sortir un petit album. Donc, je les ai faites mixer quand même, pour pas que le son, parce que le son était moins bon avant d'être mixé. Et voilà, et de l'offrir à mon public. Et j'ai eu une chance incroyable parce qu'on a fabriqué des vinyles, 500 vinyles, et ils sont partis en moins d'une semaine, vraiment comme des petits pains au chocolat le matin. J'étais très contente.
Des chansons qui parlent de vous, comme Hélène Manarino, qui arrive. C'est le portrait inattendu de Barbara Pravi. Culture Média continue. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Barbara Pravi, elle va représenter la France à l'Eurovision, sera le 22 mai à Rotterdam avec cette chanson Voilà qu'on vient d'entendre. Elle a un mini-album qui vient de sortir, un autre plus important qui va sortir, enfin, plus important en temps. Et maintenant, c'est le moment attendu. Hélène Manarino, bonjour.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
C'est le portrait inattendu, c'est à vous Hélène.
Bonjour Barbara Pravi.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Les secrets de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Alors, Babou, Baboulette, Barbouda, vos surnom, ou encore Mowgli, après les étés à Saint-Raphaël quand vous étiez bronzé. Votre envie, écrire, chanter des histoires qui arrivent jusqu'à nous, et ce matin c'est votre histoire que l'on va raconter. Vous n'aimez pas que l'on vous impose les choses, vous savez exactement ce que vous devez faire, vous vous entourez des mêmes personnes pour avancer, travailler, vous êtes inspiré des événements de la vie, vous avez un très fort caractère que votre papa a su déceler dès votre naissance. Dès qu'il a vu vos cheveux apparaître, il a dit, cette fille-là a 15 ans, elle ne sera plus à la maison.
Non.
Et d'ailleurs,
c'est vrai. C'est incroyable, c'est vraiment sa grande phrase en plus.
Donc, d'ailleurs,
papa,
si tu nous entends, dès l'âge de 16 ans, vous avez commencé un peu à partir, à vivre avec une copine, mais vous êtes vite retourné à la source, chez vos parents. Alors, Barbara Pravi, reprenons le début de votre histoire, votre enfance à jamais sans vos quatre nookies. Ce sont des petites peluches. Ils sont toujours dans votre chambre.
Je tape dans les mains, elle n'en revient pas.
Nuki, Niku, Kinu, Kuni.
Leur nom. C'est pas dans le bon ordre, mais c'est ça.
Bah oui.
Nuki, Niku, Kuni, Kinu. C'est voilà. Incroyable.
Wow.
Ça, c'est incroyable.
Vous aimiez vous endormir après avoir admiré les petites scénettes de votre père qui s'amusait à prendre des voix différentes en demandant systématiquement « C'est qui, nous ?» Et il aimait vous faire chanter cette chanson. J'ai tout
imaginé pour rester avec toi.
Pourquoi
j'ai
c'est
tout
dingue
imaginé.
Bah parce que enfin, ça c'est vraiment...
Personne ne sait.
Mais personne, personne.
C'est... Pardon de ce compliment. C'est je ça, Hélène Manarino.
Barbara Pravi, vous avez tout de suite compris le sens des choses en avance, surtout dès l'âge de 3 ans. Vous connaissiez toutes les relations familiales, ce que voulait dire oncle, tante, cousin. Vous avez appris à nager à cet âge-là grâce à votre grand-père, Déda, qui donnait des cours de natation. Curieuse, toujours à 3 ans, vous demandez à votre grand-père pourquoi il a quitté son pays, la Serbie. Votre question lui a inspiré un livre qu'il a écrit pour la famille. Quand votre papa écoutait Mozart, Don Giovanni, vous lui posiez toutes les questions sur le personnage, comme pourquoi Don Giovanni a tué son père. Et puis 2 ans plus tard, à 5 ans, votre famille a compris que vous saviez lire, puisqu'en passant devant des bars, vous vous demandiez pourquoi il y a le début de mon prénom écrit partout. Bar, Barbara. Alors, Barbara Pravi, en 6e, quand un ami de vos parents vous a demandé que veux-tu faire plus tard, vous avez répondu motocrotte. Et pourtant...
Attends, vous le pensiez vraiment ?
Bah, j'étais un petit
ou
peu...
c'était de la provoque ?
Ouais, c'était de la provoque, mais c'est resté parce que vraiment, j'étais très énervée. Je me souviens de ce dîner et j'ai dit motocrotte. Et je suis partie.
Et pourtant, votre destin était tout tracé. Aucune question ne se posait quand il s'agissait de faire le spectacle, de chanter. Dès que vous receviez un CD, en un après-midi, vous connaissiez les chansons par cœur, notamment de cette comédie musicale. Ce sera nous. Vous aviez 7 ans, les envies d'aimer, les 10 commandements. Puis il y a eu les trajets en voiture Lyon-Paris où vous chantiez non-stop, les spectacles de Noël avec votre sœur en faisant des reprises des Frères Jacques, de Claude François. Votre reprise de l'hymne à l'amour d'Edith Piaf à l'âge de 10 ans pour la bar mitzvah de votre meilleur ami. Mais la musique de votre enfance, c'était ça.
Oh, précisément celle-là, en plus, je l'adore.
Ah oui,
ouais, je l'adore.
Barbara Pravi. Continuons votre histoire, une petite fille qui avait besoin d'énergie, que vous trouviez grâce au blédina que vous mangiez, mais attention, il fallait plein de grumeaux.
Ah oui.
Vous débordiez.
Normalement, c'est l'inverse.
Bah oui, débordiez d'imagination, comme ce jour où vous avez créé votre propre station de radio, Renoir FM.
Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Franchement, je sais même pas qui vous avez appelé pour ça.
Elle sait tout.
Et
Hélène.
Oui. Et alors, il y avait aussi votre élevage d'escargots que vous aimiez faire. Rien ne pouvait vous faire peur. Vous aimiez à Saint-Raphaël aller au bout du solarium de la piscine pour, avec votre sœur, vous raconter des histoires d'horreur. Barbara Pravi, on a aussi envie d'entendre vos bêtises. Vous avez par exemple balancé une poche d'eau par la fenêtre sur un monsieur qui passait dans la rue et en plus il allait à un entretien d'embauche. Il a sonné chez vous pour se plaindre en étant sûr que ça venait de chez vous. Votre maman a démenti en disant que vous étiez incapable de faire ça. Alors Barbara Pravi, vous continuez d'écrire votre histoire, celle d'aujourd'hui, avec sincérité, émotion, rire, générosité, proche de votre famille. Vous aimez rentrer chez vos parents pour vous faire masser les pieds. Ou pour jouer avec votre sœur à se mettre du dentifrice sur les lèvres pour avoir la bouche toute blanche. Vous êtes la conseillère déco intérieure de vos parents. Vous aimez prendre le temps de regarder Le Seigneur des Anneaux en version longue, relire les mêmes livres, écouter Love Yourself de Justin Bieber, imiter Fred et Jamy de C'est pas sorcier, ponctuer vos discussions d'un « wesh frère ». Mais vous aimez surtout être auprès des autres, leur faire plaisir en offrant des fleurs, des petits cadeaux, en leur cuisinant vos lasagnes, recettes apprises pendant le confinement. Et d'ailleurs, vous venez d'acheter un four, mais votre cuisine n'est pas adaptée à son format, donc vous ne pouvez pas l'utiliser.
Je ne savais pas qu'il fallait acheter le meuble pour encastrer le four.
Vous perdez systématiquement vos affaires, surtout votre carte bleue, vous oubliez votre trousse de toilette, vous oubliez de respirer quand vous êtes concentré, et vos proches sont obligés de vous dire « respire Barbara ». Mais surtout Barbara Pravi, humaine et sincère, vous êtes capable de verser des larmes dans l'avion en rentrant d'une promo en Espagne quand vous pensez à votre carrière et à tout ce que vous avez accompli depuis 3 ans. Alors voilà, la Môme Pravi, on n'a pas envie d'arrêter d'écouter votre hymne à la vie.
Merci beaucoup Hélène, réaction Barbara Pravi.
Merci beaucoup.
Barbara.
Ouais, non mais précisément, je suis très émue et je vais envoyer des petits textos parce que je crois avoir reconnu des informateurs.
Mais ce qu'elle raconte est vrai, vous allez vraiment chez vous vous faire masser les pieds?
Ah bah oui, complètement. Ouais.
Et Renoir FM, c'était bien?
Et Renoir FM, c'était génial, le jingle c'était Renoir FM, la radio qui fait flipper. C'était ça.
Redites-moi les prénoms des 4.
Nukini Kukuni Kinu.
Il reste avec nous, Culture Média continue. Merci Hélène Manarino, à tout de suite.
Merci beaucoup.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Barbara Pravi, qui va représenter la France à l'Eurovision avec ce titre. Voilà, vos chansons sont très personnelles. Vous dites que quand vous chantez le titre, voilà, on a vu votre émotion pendant le portrait d'Hélène Manarino. Vous dites que pendant que vous chantez, voilà, vous êtes quasiment en transe. Ça se manifeste comment?
Ça se manifeste comment? En fait, ça se manifeste, j'ai un trou noir avant, trou noir après. Donc c'est, et je me souviens jamais de ce que j'ai fait.
D'accord.
Quand je suis en train de chanter, c'est-à-dire que vraiment c'est ouais, je suis connectée à quelque chose d'autre.
Pendant tout un spectacle ou spécifiquement cette chanson?
Oh, ça fait longtemps que j'ai pas chanté pendant tout un spectacle, donc je peux pas vraiment répondre à cette question.
Pardon, vous avez raison. Mais j'avais oublié le confinement.
Non, mais c'est vrai. Et puis moi, avant le confinement, je faisais pas beaucoup de scènes, donc du coup, voilà. Mais par contre, voilà, ça me demande une espèce d'extrême, comme une extrême concentration et une extrême lucidité. C'est très étrange.
La presse vous compare à des grands noms, Barbara Pravi, Piaf, Barbara et même Jacques Brel pour le côté exalté, justement. Je vais citer André Manoukian à votre sujet. Il dit elle ramasse la flèche laissée par Édith Piaf ou Barbara et elle l'envoie encore plus loin. Barbara, vous assumez l'héritage?
J'assume l'héritage. Je ne sais pas si j'ai les épaules pour envoyer la flèche encore plus loin. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est ce qui me nourrit, bien sûr. C'est la musique que j'écoute. Donc je suis fière, en fait. Parce que pour moi, ce que ça veut dire, c'est que mes mots sont importants. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime chez ces gens-là, c'est leurs mots, leur façon d'écrire, la réflexion qu'il y a autour de la langue française et des mélodies, bien sûr. Et donc, si la comparaison, elle est à cet endroit-là, j'en suis flattée, quoi. Flattée.
Et vous racontez également des choses très, très personnelles, comme Brel ou comme Barbara, des choses parfois très douloureuses, comme par exemple dans la chanson « Le mal amour », extrait.
J'ai le mal amour, le mal amour. Souvenir des coups qu'on prend pour des caresses. J'ai le mal amour, le mal amour. C'est un amour aveugle et sourd qui blesse.
Dans cette chanson, vous racontez avoir vécu une relation de couple très toxique avec un homme qui vous battait. Pourquoi avoir écrit cette chanson? Par catharsis, pour évacuer ou pour prévenir les autres filles de ne pas se perdre, de ne pas se faire avoir par un homme violent?
Je me place jamais dans cette position de préventive, ou en tout cas parce que ça voudrait dire que je sais mieux, alors que la réalité de ces sujets-là, c'est qu'on sait jamais mieux et qu'on peut toujours retomber dedans en plus. Donc parce que c'est, ça vient, ça génère, ça crée des mécanismes, en fait, un engrenage dans lequel on se sent plus, on se voit pas partir en fait. Donc non, c'est pas pour prévenir, c'est vraiment cathartique. Mais par contre, ouais, j'ai la sensation qu'en fait mettre des mots sur ce que je vis de dur. Ça me permet d'en maîtriser les contours quelque part. C'est-à-dire que puisque j'ai fait acte, parce que quand on fait acte à l'écrit de quelque chose, ça devient réel. Puisque j'ai fait acte de ces choses-là, alors à chaque fois que j'en parlerai ou à chaque fois que j'en chanterai ce que j'ai écrit, j'en deviendrai maîtresse à l'endroit où je n'étais pas du tout quand ça s'est passé.
On a l'impression que les choses évoluent dans le bon sens et pourtant vous dites que le terme féministe est presque devenu un gros mot. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Je pense que j'ai dit ça il y a très longtemps. Parce qu'en fait,
c'était dans 20 minutes, le 8 mars dernier. C'est pour ça que ça m'a frappé, c'est pour ça que je l'ai relevé.
Ah, c'est étonnant parce que c'est pas du tout comme ça que je vois. Pour moi, en fait, le féminisme, c'est sûr que c'est un mot galvaudé dans la mesure où on a fait en sorte qu'il fasse peur. Ça veut dire que c'est un fourre-tout dans lequel il y a plein de choses, plein de réflexions extrêmement justes et aussi plein de choses qui sont, à mon sens, qui desservent en fait la cause de la femme.
Par exemple ?
Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de courants, on se perd un peu, on a l'impression... Par exemple, moi, quand j'ai commencé à prendre conscience du féminisme, je n'aimais pas du tout ce mot, parce que pour moi, c'était associé à des actes violents et très agressifs. Or, ce n'est pas du tout le cas, du tout. Malheureusement, c'est l'idée générale la plus répandue. Et quand on dit féminisme, moi, je prête parfois, ça me donne envie de rougir. Je regarde comment la personne en face est en train de prendre ce mot. Et je me dis, ah super, il le prend bien. Allez, j'y vais, je mets mon paquet. Et si jamais je vois qu'il le prend mal, je suis sur des œufs et j'essaye d'expliquer. Enfin, c'est quand même assez étonnant, alors que la réalité de ce mot et la réalité, en fait, du combat féministe, c'est seulement et uniquement de demander aux hommes et aux femmes de prendre conscience qu'on est tous le produit d'une histoire qui nous dépasse et que dans cette histoire qui nous dépasse, c'est une histoire qui a été écrite par les hommes, pour les hommes, et que nous, et qu'on arrive dans une période où on a la chance de pouvoir voir les choses avec un peu plus de recul et de rééquilibrer ces forces-là. C'est tout.
On va rester un peu dans le champ du féminisme avec vous, Eva Rock, mais pas seulement, parce que vous êtes de retour avec une série documentaire à voir sur Slash TV, la plateforme de France Télévisions. Eva.
Oui, j'ai choisi pour vous, Barbara. C'est une série en 8 épisodes, série documentaire, 6 minutes chacun, donc c'est assez court. Et il est question de jeunesse, de rapport au corps, de sexualité, et surtout donc de féminisme et de féminité. La série est consacrée à Lisa. C'est une jeune femme d'une vingtaine d'années, et je la laisse décliner son identité.
Je m'appelle Lisa, et je suis voyante stripteaseuse. Et aussi étudiante en art, égouine et féministe.
Ah non, là c'est cash. Pourquoi un documentaire cette jeune femme, Eva ?
Parce qu'elle est extraordinaire. En fait, elle est aussi le reflet d'une partie de la jeunesse d'aujourd'hui. Elle est parfaitement consciente de toutes les problématiques de la société qu'elle analyse d'ailleurs avec justesse. Vous parlez de l'importance des mots, elle en est le reflet, vous allez l'entendre. Elle a des ongles hyper longs à une seule main, un maquillage qui est fait de strass et de stress, de strass et de paillettes C'est moi qui suis stressée. Elle a des vêtements colorés qui moulent son corps, qui dévoilent son corps aussi. Et Lisa semble totalement hermétique au regard des autres. Elle vit sa vie et son regard, elle le pose sur notre société, sur les rapports hommes-femmes notamment, et sur sa féminité.
Je me définis comme extrême femme. Et être femme, en fait, c'est avoir une féminité qui est non autorisée, qui est non convenable, non conforme. Une féminité paria. Je me considère sorcière parce que je me sens proche de cette figure un peu en dehors des normes et de cette figure en fait qui est très libératrice.
Ça a l'air passionnant. Sur la forme, Eva, la série ressemble à quoi ?
Alors, il y a beaucoup de plans face caméra, évidemment. La réalisatrice Camille Dusselier n'apparaît jamais. Elle ne fait pas entendre sa voix. Elle sublime la parole de Lisa. Elle observe d'ailleurs sans jugement. Elle entend sa parole. Et Lisa, elle déjoue tour à tour les stéréotypes qui sont liés à son hyper-féminité. Alors, elle raconte son métier de stripteaseuse, par exemple, avec passion. Elle n'hésite pas à parler tarot et ésotérisme devant la caméra. Elle se mue aussi en sirène dans un troisième épisode qui est absolument magnifique en termes de réalisation. Elle est vraiment dotée d'une queue de sirène, vous savez, ça existe, on peut prendre des cours de natation avec des queues de sirène, voilà.
Oh,
et elle nage dans les eaux translucides de la région marseillaise d'où elle est originaire. Et d'ailleurs, écoutez bien, elle évoque sa classe sociale et elle revient sur le concept de cagole.
Très souvent, On me dit, dans des milieux un peu plus bourgeois, que je parle trop fort ou que je ris trop fort. Et en fait, ça, c'est quelque chose pour me ramener à ma classe aussi. Parce que les pauvres hurlent. Cagole, c'est aussi la fierté prolétaire.
J'adore ce sens des expressions ouais. qu'elle a, sa façon de jouer avec les mots aussi. Elle parle avec justesse, avec intelligence. Et en fait, elle devient une sorte de personnage de fiction auquel on s'attache. Elle dénonce la société patriarcale, mais sans véhémence. On la retrouve notamment avec une de ses amies qui est étudiante en philosophie. Écoutez bien ce qui arrive.
Je me rappelle une fois, j'étais allée à la fac avec, tu sais, ces petits roses qu'on avait trouvés à Timomo.
Ah oui, c'était beau.
C'était vraiment dans ma tête une expérience. De vie, quoi. D'aller à l'université.
Avec ses petits
oui,
heureuses.
Avec ce petit. Pourtant, c'est pas grand chose, hein. Oui. C'est juste un heureuse bonbon. Mais attends, en licence de philosophie, le rose bonbon, ça existe même pas comme couleur, tu vois. Puis de toute manière, oui, les gens, tu les vois, on dirait, ils sortent
c'est austère,
de cave et
oui.
tout.
Oui, oui. Si tu passes des oraux, tu vas te masculiniser, du coup, tu penses?
En tout cas, c'est certain que je ne mettrai pas mon petit heureuse.
Eva, qu'est-ce qui vous a le plus séduite dans cette série?
Bon, alors Lisa, évidemment, que je trouve touchante, émouvante. Elle est joliment étrange. C'est une poétesse à sa façon qui nous embarque dans son monde, sans prosélytisme d'ailleurs. Elle vit devant la caméra avec une sincérité et une simplicité qui est déroutante. Sans doute qui est née grâce à la relation que la réalisatrice a pu établir entre elles. Et elle nous offre un autre visage de la jeunesse et elle nous pousse à réfléchir surtout sur ce qu'on met derrière le mot « normalité ». En particulier, et que le mot normalité, les 8 épisodes pardon, sont à voir gratuitement sur France.tv. Je pensais, Barbara, vous n'hésitez pas à faire entendre votre voix hein, quand il est question, on parlait de féminisme. Vous avez l'impression que le débat évolue avec cette génération des 20-30 ans, justement ?
Ah, bien sûr. Alors ça, c'est évidemment que ça évolue. Pas toujours dans le bon sens à mon goût, mais c'est pas grave parce que je crois qu'on a besoin d'ouvrir plein de portes de réflexion et que pour avoir une espèce de vision un peu globale des choses, de comment chaque personne, chaque minorité, parce que moi j'ai beau raconter ce que je veux, en attendant j'ai quand même beaucoup de chance dans tout ça. Donc et voilà, donc c'est chacun prend conscience de la chance qu'il a, de l'endroit où il est, etc. Et bien sûr que ça évolue, et je crois que ça prendra du temps parce que c'est vraiment, à mon avis, le bouleversement là qu'on est en train de vivre, c'est un peu un des grands bouleversements de notre siècle. Et comme tout bouleversement, bah, ça peut prendre 10, 20, 30, 40 ans. Donc je pense qu'il faut aussi s'accorder le temps. Et moi, par exemple, je m'accorde souvent, je me dis, mais ça se trouve, une égalité ou quelque chose d'un peu parfait, c'est probablement pas quelque chose que je connaîtrais. Donc en fait, ma parole à moi, elle ne sert qu'à mettre un tout petit caillou à côté de tous les petits cailloux que toutes les personnes qui parlent mettent. Et puis, pour nos enfants, nos petits-enfants, ça sera une base, quoi.
Merci pour ces mots, Barbara Bravi. Merci beaucoup, Eva Rock.
Merci, Philippe.
À demain, dans un instant, c'est Laure d'Autriche qui sera avec nous, même si elle est déjà en ce studio pour son indispensable. On va parler de Mozart, ça va vous plaire également, Barbara. Mais d'abord, musique, quoique Mozart soit de la musique, un peu quand même, avec Justin Bieber.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. Oh. The way I breathe you in. Hey. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby. Never let you go. Oh. And I see you. There's nothing like your touch. It's the way. Peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it.
You ain't sure yet, but I'm for ya. All I could want, all I could wish for. Nights alone that we miss more, and days we save as souvenirs. There's no time, I wanna make more time. Give you my whole life. I left my girl, I'm in my Yorker. Hate to leave it, call it torture. Remember when I couldn't hold her. Left the baggage for a mover.
I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my up to the north, yeah.
the source, yeah.
Yeah, that's it.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah, shit.
I get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
C'était Justin Bieber sur Europe 1. On continue à parler musique en compagnie de Barbara Pravi, notre invitée, avec les Indispensables. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour.
Avec vous, on va parler de Mozart. Et alors justement, tout à l'heure, Hélène Manarino disait que votre papa, Barbara, écoutait Mozart, Don Giovanni, lui posait toutes les questions sur le personnage, pourquoi Don Giovanni a tué son père, tout ça. Vous aviez les réponses ou pas du tout?
Oui. Enfin, j'avais les réponses. Je me souviens plus des réponses, mais je me souviens du livret. Je sais pas ce que j'avais avec cet opéra. J'étais dingue. Ouais. Ça me... J'étais complètement...
Envoûtée.
Ouais, c'est le mot.
Voilà, je peux vous dire, Laure d'Autriche est toujours envoûtée par Mozart. Et là, vous allez nous parler, Laure, d'un violoniste qui vient d'enregistrer une œuvre qu'on dit de Mozart, mais on n'est pas en réalité certain qu'il soit à l'origine.
Voilà, en fait, c'est une œuvre que Mozart aurait composée à l'âge de 20 ans, une œuvre que les violonistes ne jouent presque plus parce qu'il y a un doute sur l'authenticité. On n'est pas bien sûr qu'elle soit de Mozart. Alors, cette œuvre, c'est le 7e concerto pour violon. Elle n'est plus vraiment jouée aujourd'hui, très peu enregistrée, mais une jeune violoniste, Lia Petrova, qui est d'origine bulgare et qui vit aujourd'hui à Paris, vient de l'enregistrer. Alors, en fait, on n'a pas la partition originale de cette œuvre. On a seulement des copies. Et puis, ce qui met le doute, quand on le compare aux autres concertos pour violon de Mozart, c'est qu'il y a des bizarreries. La musique, dans le mouvement lent, par exemple, commence avec des cordes pincées, des pizzicato. Voilà, ce qu'on va entendre à l'instant et ce que Mozart ne fait pas dans ses autres concertos. Écoutez. Voilà, ça c'est assez étrange, en tout cas pour du Mozart, sauf que cette même année, Mozart compose quand même un quatuor pour cordes et flûtes, dans lequel il utilise cette façon de décrire, cette manière. Donc c'est cohérent, c'est ce que dit la violoniste Lia Petrova, qui vient donc d'enregistrer cette œuvre.
Il y a des endroits qui sont tellement géniaux que je me dis, ok, si c'est pas de Mozart, ça veut dire qu'on a vraiment raté un autre génie. On se sent complètement dans l'esprit mozartien, on pense à l'opéra tout de suite. On a vraiment l'impression que c'est une chanteuse de l'opéra qui chante un air très beau. On a l'impression d'être dans le paradis presque.
Et puis on a quand même des ingrédients dans ce concerto qui font penser à du Mozart. Il y a des passages très lumineux comme ici, d'autres plus fiévreux, une écriture très subtile. C'est quand même fortement du Mozart, je dois dire.
Mais alors, attendez, pourquoi on a les autres concertos pour violon de Mozart et les manuscrits originaux et pas celui-ci?
Alors, parce qu'à l'époque, Mozart est en voyage à Paris au printemps 1778. Il cherche un emploi, il a besoin d'argent. Et pour les Français, à cette époque, Mozart est presque un inconnu. Il est venu plus jeune lorsqu'il était enfant prodige, là il avait subjugué tout le monde. Mais lorsqu'il revient adulte, eh ben, il n'est presque plus rien. C'est malheureux de le dire, incroyable. Mais c'est le cas en tout cas à Paris à cette époque. Donc, il cherche un emploi, il cherche à se produire à l'époque, et il est probable qu'il ait vendu le manuscrit de son œuvre pour gagner un peu d'argent, justement. Et ce sont sans doute deux de ses élèves qui ont fait des copies de ce concerto, et voilà pourquoi on n'a pas aujourd'hui la main de Mozart sur cette œuvre. Peut-être qu'en tout cas qu'un jour on retrouvera l'original, c'est ce que dit la violoniste Lia Petrova.
On ne sait jamais, je pense que c'est sûrement aussi un peu de chance avec ce qu'on pourrait retrouver à un moment. Mais le plus important, c'est qu'on l'écoute et on l'écoute vraiment sans préjugé, qu'on se dit « tiens, j'ai envie de découvrir cette œuvre ». Et la question, c'est peut-être aujourd'hui pas tellement « est-ce que c'est vraiment du Mozart ou pas ?» mais plutôt « est-ce que ça me plaît ? Est-ce que ça me parle ? Est-ce que j'ai envie de les réécouter ?»
«
Voilà, ce concerto numéro 7 pour violon attribué à Mozart. Il vient d'être enregistré par la violoniste d'origine bulgare Lia Petrova, l'orchestre Sinfonia Varsovia, dirigé par Jean-Jacques Kantorov, un disque édité par le label Mirare.
C'est tentant, ça vous a tenté Barbara Frasi?
Ouais, j'adore, je trouve ça très beau. Et puis je suis d'accord, je pense qu'on s'en fiche un peu de savoir si c'est Mozart. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est juste beau, quoi. Donc, ouais. Moi, je vais aller l'écouter en tout cas.
Et puis j'ai appris cette phrase que je ne m'attendais pas à entendre, Mozart cherche un emploi.
C'est vrai. C'est clair.
Alors,
il faut qu'il s'inscrive sur Pôle emploi.
Il suffit de traverser la rue, il trouve un emploi quand même. C'est qui? Bah, je suis Mozart. Et juste un mot, c'est vrai, vous avez refusé par deux fois de participer à The Voice?
Oh, bah, en fait, je compte pas parce que ça se fait pas exactement comme ça. Mais oui, on m'a proposé plusieurs fois chaque année de faire The Voice.
Non.
Alors, The Voice, je n'ai jamais eu envie, mais vraiment pas du tout. Mais parce qu'en fait, moi, j'écris, je compose et c'est la base et c'est le nerf de mon métier, c'est le centre de ce que j'aime et de ce que je fais. Et The Voice, c'est beaucoup de reprises. Et moi, je suis très mal à l'aise à chanter des reprises. Et surtout, c'est une compétition. Franchement, je dis ça alors que je fais l'Eurovision, mais je fais l'Eurovision avec une chanson que j'ai écrite et que j'ai composée. Faire The Voice, donc être dans une compétition avec des gens qui sont des chanteurs incroyables en plus, qui ont l'habitude de faire des reprises. Et moi, j'aurais jamais été à ma place dans quelque chose comme ça. J'aurais été très malheureuse parce qu'en plus, j'ai envie d'être connue. J'ai envie que mes mots soient entendus et que mes mots soient connus. Moi, Barbara, je m'en fiche. C'est ce qui compte, c'est mon message.
Nous, on s'en fiche pas. Barbara Pravi, avec nous. Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Culture Média continue. La dernière ligne droite. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Bondel.
En compagnie de Barbara Pravi, qui va représenter la France à l'Eurovision avec cette chanson, voilà. Vous dites, Barbara, n'avoir jamais écrit de chanson qui parle d'autre chose que de vous. Je vous cite, c'est pas égocentrique, c'est thérapeutique.
Oui, oui.
Vous faites pas des chansons pour vous soigner aussi, quand même?
Non, mais quand on dit qu'il parle que de vous, on dirait que... Non. En fait, disons que je suis obligée de m'inspirer grandement de ce que je ressens, de ce que je vis, de ce que... Bah, en fait, de ce que je commets, hein, tout simplement, pour... pour que mes chansons aient un sens et pour que j'ai envie de chanter une chanson, j'ai besoin d'y voir une vérité. Et quelle vérité mieux que celle que je connais? Voilà, en gros, c'est ça.
Et parfois, c'est sans filtre. Il y a cette chanson, par exemple, notamment Cher, qui a beaucoup frappé les esprits. Cher qui raconte, pardon de dire les choses comme ça, qui raconte votre avortement.
8h27, le ciel bleu rend presque l'hôpital joli. Presque. T'as 17 ans, quasi 17 et demi. Une boule immense dans le cœur. Tu traverses la cour, t'espères croiser personne, que ça dure pas longtemps. Une pilule, puis voilà, la honte, elle passera. T'es comme l'enfant percé que le futur remplira, mais c'est trop tôt pour ça.
Mais c'est trop tôt pour ça.
Barbara, vous êtes sûre? On t'explique la vie, autour ça s'agite. Et puis il y a cette phrase qu'on te jette à la gueule. Mais vous n'êtes qu'une pute, c'est ce qui arrive, bah ouais. Vous êtes pas protégée et vous serez peut-être stérile. Fallait y penser. Bien sûr que tu y as pensé. 8h50, tu sors de cette pièce effondrée, pleine de culpabilité.
Chanson très forte, très puissante, vous en faites pas mystère, vous avez perdu 3 bébés volontairement, je veux dire avec l'IVG. Dites que vous êtes, j'ignorais que ça existe, ta hyper féconde.
Oui, j'ignorais moi aussi avant qu'on me le dise. En fait, c'est quoi? C'est très particulier parce que ça veut dire qu'on peut tomber enceinte sous n'importe quel...
Sous pilule?
Oui, pilule ou n'importe quel moyen de contraception. Et parce que notre corps est hyper fertile. Et en fait, je crois que c'est assez rare parce que moi, c'est au bout de la troisième fois que j'ai trouvé un médecin, une femme, qui a explosé de rire et qui, elle, en fait, a l'habitude de voir des femmes comme ça... assez fréquemment, quoi, et elle a vraiment ri très fort à gorge déployée en me disant mais vraiment calme-toi, tout va bien, tout est normal, parce que moi je pensais, moi je me disais, enfin je veux dire, au bout de la troisième fois on se dit qu'on a vraiment un souci, on sait pas d'où ça vient et on se sent coupable, et puis en plus moi ça s'était très 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 mal passé avec le corps médical, donc du coup c'était une drôle de période.
J'ai dit également, vous êtes compositrice, vous avez écrit pour vous,
oui,
mais pas que pour vous,
non.
Tout à fait dans un autre genre. Ça vous fait rigoler, vous avez écrit pour Chimène Badi, pour Yannick Noah, pour Julie Denati, mais aussi vous avez écrit 2 titres pour l'Eurovision Junior 2020. Il y avait J'imagine de Valentina qui a remporté l'épreuve, et alors l'un des hymnes de Culture Média qu'on écoute nous parfois au bureau, c'est Bim Bam Toi,
oui.
Extrait. Bim Une dame toi, de la jeune chanteuse Carla qui a pas gagné mais qui est devenue un gros tube, c'est ce qui vous fait vivre les droits d'auteur? Je dirais à qui je pense. Je pense à Gainsbourg.
Ah bah
qui
oui.
gagnait de l'argent avec l'Eurovision et notamment Poupée de cire, Poupée de son chantée par France Gall.
Alors pour être très honnête, pour l'instant, je gagne pas encore suffisamment de droits d'auteur parce que ça met beaucoup de temps, vous savez, à arriver dans le compte de la SACEM.
Ouais.
Mais j'espère en juillet.
Où est-ce que vous avez appris à chanter? J'arrive pas à croire que vous étiez encore vendeuse ou serveuse il y a 7 ans, c'est pas possible.
Oh, mais l'année dernière, je l'étais encore juste avant le confinement, jusqu'en décembre 2018, je l'étais encore.
Oui, mais à quel moment,
2020, pardon.
À quel moment vous êtes dit, je vais me mettre à chanter? Parce qu'on peut faire les deux en même temps.
Oui et non. En fait, c'est un métier qui est très fatigant parce que moi, je travaillais beaucoup de nuit. Donc, non, à un moment donné, je ne pouvais plus faire les deux parce que je ne pouvais plus être concentrée suffisamment sur les deux. Et je ne sais pas comment j'ai appris à chanter. J'ai appris à chanter sous la douche, chez moi. Voilà.
Attendez, si je suis bien informée, vous faisiez du droit à la Sorbonne. En plein milieu de deuxième année, vous avez tout plaqué. Vous êtes inscrite sans rien dire à vos parents à l'école de jazz Berkeley.
Ah non, pas Berkeley, mais l'American School, c'est une filière qui peut mener à Berkeley.
Mais ça, c'est pas chanter sous la douche. Ça, c'est pro.
Bah, j'ai voulu me professionnaliser. Et en fait, je suis restée 2 mois dans cette école. C'est ça, la vérité.
Pourquoi?
Bah, parce que je suis pas scolaire dans aucun domaine. C'est très douloureux pour moi, le système scolaire.
Ah oui?
Ouais, ouais.
Et alors, vous avez rencontré, vous m'arrêtez si je me trompe, il y a 7 ans, un musicien, il s'appelle Jules Jaconelli, c'est ça?
Oui.
Un compositeur un peu de l'ombre qui a travaillé notamment avec Florent Pagny et Slimane. Et alors, j'ai trouvé ça dans le Parisien Magazine. Ensemble, donc c'est lui et vous, ils inventent un concept, la pop à texte.
Non, mais
qu'est-ce que c'est la pop à texte?
C'est une période de ma vie qui est pas très agréable déjà. C'est pas grave parce que vous pouviez pas le savoir. Et en fait, je crois qu'à ce moment-là, je travaillais pas avec les bonnes personnes. Jules Jaconelli n'était pas une personne avec qui j'ai aimé travailler. Enfin, c'était très douloureux pour moi. Et je crois que j'étais très jeune et que c'est justement tout ce dont on parle, cette espèce de parcours initiatique qui fait qu'on devient un petit peu plus confiant, plus certain et plus épanoui. Je pense que j'avais besoin de passer par ça, par tout cet entourage-là qui n'était pas le bon pour moi.
Ouais.
Et qu'à l'époque, j'étais très instrumentalisée. Et ce qui fait que je suis la femme que je suis aujourd'hui, c'est que je me suis complètement libérée de ces choses-là. Donc voilà.
Il va être content s'il nous entend. Vous avez dit donc voilà, c'est voilà qu'on entend justement. Vous représenterez la France à l'Eurovision avec ce titre le 22 mai à Rotterdam. Et je le rappelle, ce nouvel album qu'on trouve tout de suite, il s'appelle Prière au pluriel. Petit album de 6 titres qui est disponible partout.
Oui.
Merci Barbara
Merci
Pravi
beaucoup.
D'avoir été avec nous. Nous on revient demain à 9h pour Culture Média. On sera avec Jean-François Piège, le chef cuisinier, et la présentatrice Julia Vignali. Il présente Le meilleur pâtissier, les professionnels. C'est sur M6. Et puis Nicolas Pagnol, c'est le petit-fils du grand écrivain Marcel Pagnol. Il vient pour une BD, ça s'appelle La prière aux étoiles. Tiens, encore des histoires
encore des prières.
Encore des prières. C'était pas fait exprès, mais je vais dire que c'est fait exprès. Il n'y a pas de hasard. Juste après le flash, c'est Anne Romanoff dans l'émission Ça fait du bien. Je vous dis à demain. Salut, bonne journée sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.